L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire cette recette?
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien froid.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la moutarde.
Prenez un mot, prenez-en deux. Faites-les cuire comme des œufs. Prenez un petit bout de sens, puis un grand morceau d'innocence. Faites chauffer à petit feu. Saupoudrez de quelques étoiles, poivrez et mettez les voiles. Où voulez-vous donc en venir? À écrire. Vraiment? À écrire? Bienvenue à tous, vous écoutez l'Épluche Livre.
Elle, c'est la lettre des livres.
Louis lit un livre où il y a des lions, des lionnes, des loups, des lacs, des lapons, des lapones et des gauchos qui lancent des lassos sur de longues licornes.
Bonjour à tous, vous écoutez l'Épluche Livre. Nous sommes aujourd'hui en conversation avec Nour Kadour. Nour, bonjour.
Bonjour Daïdré, bonjour tout le monde.
Comment allez-vous?
Très bien, merci, je suis ravie, merci pour l'invitation.
Mais merci à vous d'y avoir répondu, surtout que vous êtes en Allemagne.
Oui, tout à fait.
C'est merveilleux la technique. Donc vous êtes romancière et poétesse, car je pense que vous l'avez compris, ce sera le sujet de l'émission d'aujourd'hui, la poésie. Vous êtes franco-syrienne, Nour? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours?
Alors, du coup, je suis vraiment rentrée dans l'écriture d'abord par le biais des nouvelles et du roman. Et ensuite, la poésie s'est imposée petit à petit à moi avec cette passion que j'ai de la poésie. Et qui est pour moi vraiment même un art de vivre au quotidien, où chaque journée se ponctue de poèmes. Et c'est ainsi en fait que je suis venue à la poésie. Moi, je suis médecin de formation. Oui. Pour moi, l'empathie qui est au centre de notre métier de soignant, et aussi ce qu'on retrouve dans l'écriture. Et du coup, j'aime beaucoup allier mes deux passions, et justement essayer de les mêler au quotidien.
Très bien. Vous avez écrit 10 livres depuis 2020. Donc, quelque part, c'est quand même un parcours qui reste assez récent. Votre premier livre, si je me trompe, était un roman. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces tout débuts d'écrivaine?
Oui, tout à fait. Mon premier livre est un roman qui s'appelle L'âme du litier, qui est paru chez Hello Éditions en janvier 2022. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Yaël, qui vit en Syrie avec son père, qui est un des plus grands luthiers du Moyen-Orient. Et son père veut qu'il reprenne l'atelier de lutherie, sauf que Yaël rêve de devenir écrivain en France. Donc c'est un roman initiatique où on suit ce jeune garçon depuis son enfance en Syrie jusqu'à son arrivée en France, et aux joies et aux difficultés auxquelles il est confronté. C'est un roman qui a initialement été issu d'une nouvelle.
Oui.
Une nouvelle qui avait beaucoup plu aux personnes à qui j'avais partagé cette histoire, cette nouvelle. Et, mais tous me disaient être un peu frustrés de ne pas en savoir plus sur la psychologie des personnages. Et c'est comme ça que du coup j'ai eu l'idée d'en faire ensuite un roman.
Très bien. Donc ce métissage franco-syrien ou syrio-français, c'est quelque chose donc que vous connaissez. Quel est votre parcours de ce point de vue-là? C'est quelque chose qu'on retrouve aussi, il me semble, hein, dans votre écriture, du moins dans les textes que j'ai lus.
Oui, tout à fait. En fait, moi, je suis née en France, mais on allait passer tous nos étés en Syrie avec mes parents. Et en fait, c'est lors de ces étés-là que je vivais mes plus beaux moments enfants, disons. Et je pense que c'est pour ça que ce pays est autant présent dans l'écriture, parce que pour moi, l'écriture, c'est aussi essayer de retrouver cet état d'innocence, d'extase et de joie que l'on peut ressentir quand on est enfant. Et c'est pour ça que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient constamment dans mon écriture. Et en même temps, c'est l'envie aussi de montrer une image aussi de ce pays tel qu'il était, d'essayer de changer aussi un peu les mentalités concernant la Syrie.
C'est-à-dire le regard que porte l'Europe ou la France sur la
Syrie,
c'est ça ?
Voilà, exactement. Oui, tout à fait, que les regards qu'on peut porter sur la Syrie. Maintenant, on connaît la Syrie parce qu'il y a eu la guerre, mais c'est vrai qu'avant, c'était un pays qui était très peu connu, sauf par les gens qui sont passionnés d'histoire, parce que c'est un berceau d'histoire. Mais maintenant, du coup, la Syrie est connue avec tous les problèmes géopolitiques qui s'y déroule, et j'avais envie justement de ramener une autre image de ce pays, plus liée à la poésie de ce pays, des gens qui y habitent, qui sont baignés d'humanité. Mmh. Voilà, c'est pour ça souvent qu'effectivement mes écrits se passent là-bas ou explorent en tout cas ces notions-là.
Très bien. Après votre roman, donc L'âme du luthier, vous avez paru, écrit, publié, un premier recueil de poèmes, L'Arme de Lune. Quelle est l'aventure, quelle est l'histoire de ce recueil ?
Ce recueil, c'est un recueil qui a été édité aux éditions L'Apostrophe, c'est une maison d'édition que j'ai co-créée avec d'autres poètes montpellierins. Et c'est un recueil initialement qui, pour tout dire, en fait, avait été envoyé à plusieurs maisons d'édition de poésie et qui n'avait pas trouvé que ce recueil se rapprochait de la ligne éditoriale, effectivement, parce que c'était un recueil qui parlait surtout de la Syrie. Et du coup, en fait, c'est un recueil qui avait eu pas mal de refus dans le milieu poétique, en me disant que l'écriture était très belle, mais que le sujet dont il était mention était peu intéressant, ou en tout cas se retrouvait peu dans la ligne éditoriale de certaines maisons de poésie. Donc c'est pour ça qu'on a eu en fait l'idée avec notre association de poésie de publier ce premier recueil, parce qu'en plus on avait envie de créer un côté éditorial à cette association. Et on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Donc on a eu l'idée d'utiliser ce recueil-là comme premier recueil de la maison d'édition. Mmh. Et finalement, c'était un recueil qui a été bien accueilli, qui a remporté plusieurs prix de poésie et qui ensuite là est en train de tourner avec un spectacle qu'on fait avec un musicien et un danseur. Donc voilà, c'est finalement une belle chose qui soit arrivée à ce recueil initialement.
Mais oui.
C'est un peu voué à l'échec.
Vous avez bien fait d'insister. Je vois qu'il a eu le prix de la Fondation Saint-Jean-Perse. Et le prix Jacques-Raphaël Lègue de la Société des poètes français, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Il était aussi lauréat du prix Nouvelle Voix d'ici de la Maison de la Poésie Jean Joubert à Montpellier.
Très bien.
Voilà.
Super. Et dans votre parcours, sauf erreur, vous avez eu la chance de bénéficier ou de participer, je ne sais pas quel est le terme exact, de résidence d'écriture. Quel est votre retour d'expérience ? Vous êtes la première autrice que j'interview qui a eu cette expérience-là de résidence d'écriture. Est-ce que déjà vous pouvez expliquer rapidement aux auditeurs de quoi il s'agit ? Et puis quelles sont les résidences auxquelles vous avez participé ? Qu'est-ce que vous en avez retiré ?
Oui, bien sûr. Alors une résidence d'écriture, c'est un lieu en fait qui va accueillir un écrivain sur un projet initial qu'il a établi et sur lequel il ou elle est sélectionné. Et c'est un espace qui permet pendant un certain temps d'offrir uniquement de la création à un écrivain, C'est-à-dire qu'on reçoit une bourse pour ce temps-là qui est vraiment dédié à l'écriture. Et moi, du coup, la première résidence d'écriture que j'ai faite, c'était au Havre. C'était une résidence d'écriture de un mois où, à la galerie Incarnato, où là, j'étais venue avec un projet d'écriture. Et du coup, pendant ce temps-là, on a vraiment une liberté pour écrire et en même temps, on doit animer des ateliers d'écriture ou des actions avec le public. Donc moi, j'étais intervenue auprès d'ateliers d'écriture dans une maison de retraite au Havre. Après, j'avais fait une autre résidence d'écriture à Vauvert, aux Avocats du Diable.
Ah oui.
Ça, c'était en février 2024 et c'est là où j'ai écrit, j'ai commencé à écrire mon deuxième roman sur lequel je suis en train encore là de travailler.
Les Avocats du Diable qui sont
à Vauvert.
Qui collaborent à la fin. C'est la maison d'édition voilà, au Diable Vauvert.
Exactement, tout à fait. Voilà. ensuite, j'ai effectué une autre résidence d'écriture en Normandie à La Factory, qui est la maison de poésie de Normandie, où là, j'y étais pour, en parallèle, un projet d'écriture personnel de poésie et en même temps un projet de création, justement, avec un musicien, Nicolas Courdeau, et un danseur, Antoine Boisson, autour de la création du spectacle de L'Arme de Lune. Voilà. Et là, j'ai une autre résidence d'écriture qui est prévue à Bruxelles, à la Maison Poème, en novembre 2024. Et en fait, je trouve que c'est un très, très bon dispositif pour les auteurs, car c'est vraiment un temps qui va être dédié à l'écriture. Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est compliqué de se dédier pleinement à l'écriture parce que ben, il y a des obligations familiales, sociétales, personnelles qui font que c'est compliqué de consacrer un temps entier. Et du coup, durant ces temps-là, ça peut être qu'un jour, un mois, on est vraiment concentré sur un projet en particulier, ce qui nous permet vraiment d'avancer dans ce projet-là.
C'est un temps que vous prenez hors du temps, enfin hors du temps courant,
voilà,
c'est
exactement.
Bien ça. Et qui pour
oui,
vous est vraiment propice et nécessaire à la création. C'est là où vous créez le mieux.
C'est là où, en tout cas, effectivement, j'initie mes projets d'écriture initialement au le mieux. Par exemple, au Havre, c'est là où j'ai commencé à écrire « Le bleu de la mer s'est enfui ». Aux Avocats du Diable, à Vauvert, c'est là où j'ai commencé à écrire mon roman. Et effectivement, c'est vraiment, je trouve, un coup de pouce initial pour vraiment se lancer dans un projet d'écriture. Oui.
Super. Merci beaucoup, Nour. Nous allons bientôt faire une petite pause musicale, puisque poésie et musique sont bons camarades la plupart du temps. Prenons ce temps hors du temps à nouveau et écoutons le reste du temps un morceau de Francis Cabrel, choisi par Nour Kadou.
Et si on dormait sous les arbres le reste du temps? Deux amants posés sur des yards de débutants, en dessous des cieux qui les ardent, juste en faire autant. Quelques branchages qui nous gardent des mauvais vents. Je ferai tout ce qu'il te tarde, l'homme ou l'enfant.
Tellement de choses ont changé
dans nos jardins dérangés. Tellement de fleurs allongées, tellement. Sous la lumière orangée, longtemps nos corps mélangés, longtemps. Rien qui mérite qu'on en parle, rien d'inquiétant. Un miroir pour que tu te fardes, je t'aime pourtant. Plus personne ne nous regarde, ni ne nous entend. jardin dérangé, tellement de fleurs allongées, tellement. Sous la lumière orangée, longtemps nos corps mélangés, oh, longtemps. Pendant que le monde bavarde, a rien d'important, on pourrait dormir sous les arbres le reste du temps.
Écoutez l'Épluche Livre, nous sommes en compagnie de Noor Kadour, poétesse et autrice. Vous êtes toujours là, Noor ?
Oui, je suis toujours là.
Est-ce qu'il y a des poétesses, des poètes, des auteurs qui ont construit votre art, qui vous ont construite ?
Je dirais d'abord, il y a eu vraiment Mahmoud Darwish avec son recueil « La terre nous est étroite », qui vraiment a été pour moi une découverte de la poésie. C'est-à-dire qu'en lisant ce recueil-là, c'était vraiment un bouleversement pour moi. Je m'en souviens, j'étais au lycée. Et en lisant ces vers, ces lignes, je me suis rendu compte à quel point la poésie était belle, était puissante et me touchait personnellement.
Pardon, vous l'avez découvert en français ou en texte, en version originale ?
Non, c'était ma mère qui m'avait offert ce recueil et c'était un jour où il pleuvait, et en fait, on ne pouvait pas aller dans la cour de récré du lycée. Du coup, on était allé se réfugier au CDI avec des amis et j'avais sorti ce recueil de mon sac que je n'avais pas encore ouvert, que ma mère m'avait offert.
Oui, alors pardon, dans ma question, la langue dans la poésie. Oui.
La langue de la poésie.
Oui, la langue dans laquelle vous avez découvert ce recueil qui a fait sens pour vous et qui a visiblement
oui,
été
Oui, été oui, c'était en français. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, en français. Oui, oui, tout à fait. Après, il y a eu Ethel Adnan aussi, que j'aime beaucoup. Et un poète plus contemporain, François Schenk,
oui.
Christian Bobin, j'aime beaucoup aussi Perrine Le Guérec, voilà, dans les auteurs plus contemporains.
Et vous trouvez donc de l'inspiration, même lorsque celle-ci ne dit pas son nom dans les textes des autres, est-ce que parfois vous les retrouvez aussi, malgré vous, une fois le texte écrit ?
Je pense qu'effectivement, un auteur est aussi le produit de toutes ses lectures. C'est pour ça aussi que pour moi, l'écriture est indissociable de la lecture. Je dirais qu'avant d'être autrice, je suis avant tout une grande lectrice. Et je pense effectivement que ce que nous pouvons lire vont façonner inconsciemment notre écriture. Et même si on essaie de se défaire aussi de ce qu'on lit, mais je pense que ça participe effectivement à l'élaboration de notre style d'écriture.
Est-ce qu'on peut... alors là, j'ai un petit peu envie de me faire plaisir. Est-ce qu'on peut revenir sur le recueil, mon recueil favori en tout cas, écrit par vous. Le bleu de la mer s'est enfui. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce texte, enfin de ces textes qui forment un tout?
Oui, tout à fait. Le bleu de la mer s'est enfui, qui est paru aux éditions du Carnet du Dessert de Lune et avec mon éditrice à l'époque qui était Alice Chapal, est un recueil qui raconte en fait l'histoire d'une femme qui elle-même conte son histoire à quelqu'un. On comprend à la fin à qui est-ce qu'elle est en train de raconter son histoire. C'est une femme qui vit dans un pays où la poésie est interdite. Et elle décide avec son mari qui est cordonnier de façonner des poèmes sous les chaussures des gens. Et c'est comme ça que la poésie va devenir un acte de révolution et en même temps un acte de résistance, car elle va pouvoir diffusé de pied en pied à travers le pays. Mmh. Effectivement, ce recueil a la particularité d'être écrit sous la forme de courts poèmes qui sont des parties du corps, des organes du corps, car je voulais justement utiliser entre guillemets mes deux passions, donc la médecine et l'écriture, explorer l'idée que ce que l'on peut vivre n'est pas seulement ancré dans la mémoire cérébrale, mais aussi ancré dans la mémoire corporelle. Mmh. Et comment ce que l'on a vécu peut être effectivement imprégné dans notre corps, mais aussi ce que l'on a vécu peut être transmis de génération en génération, ce qu'on appelle la transmission intergénérationnelle, qui maintenant est effectivement prouvée même scientifiquement que les traumatismes ou les joies qui ont été vécues par nos ancêtres sont transmis aux descendants à venir.
D'accord.
Et voilà, c'est comme ça qu'est né ce recueil du coup.
Oh, c'est super. En tout cas, c'est un recueil magnifique que nous aimons beaucoup à la librairie.
Merci beaucoup.
je crois que vous avez fait paraître vous avez fait paraître republier un ouvrage, mais sous une autre forme. Est-ce qu'on peut parler de recettes de renaissance ?
Oui, tout à fait. Recette de renaissance, c'est une collaboration avec une dessinatrice qui s'appelle Camille. Et en fait, cette artiste, du coup, a mis en dessin certains de mes poèmes issus de L'Arme de Lune. Et c'est comme ça qu'est né ce recueil intitulé Recette de renaissance. Donc ce sont les poèmes de L'Arme de Lune avec les dessins de Camille. C'était une volonté de faire une réédition spéciale pour les 2 années du recueil et c'est comme ça qu'est née cette idée.
Super. Est-il possible d'avoir un petit extrait lu par la poétesse elle-même ?
Oui, je vais vous lire un poème qui s'intitule « Ma belle Damas endormie ».
Super.
Oh, Damas, ma belle endormie, rue humide aux rimes polychromes, pistache émiettée sur tes lèvres, jasmin ruisselant sur ton cou matinal, cardamome poudré sur tes joues corolles. Ô Damas, ma belle endormie, aux mille délices noyées de brume, aux mille supplices perdus en lune, quand il m'arrive de me perdre dans tes artères fleuries, avec comme unique boussole la saveur du pain chaud et mes semelles de poussière en guise d'aile, la trace de mes doigts cherche dans tes quartiers lumineux tes courbes sensuelles d'humanité, doublées par le soleil, les murmures de ta langue au goût de miel d'aube, et ébahie ma belle Damas endormie. J'ai vu tes fleurs causer au vent, j'ai vu tes murs questionner le ciel, parfois sombre, parfois clair. Mais de toi, ma belle Damas endormie, ne restera jamais sur mes lèvres l'unique goût voluptueux de tes rêves.
Merci beaucoup, Nour, pour cette lecture. C'était très beau. Donc, c'est un poème qui parle de Damas.
Oui, tout à fait.
C'est une ville que vous connaissez, que vous chérissez ?
Oui, c'est une ville que j'aime beaucoup, qui est pour moi une des plus belles villes du monde. Et c'est un poème que j'ai composé en étant à Damas, justement, en étant assise sur un banc dans un parc entouré d'arbres et où on sentait toutes les saveurs, on sentait le jasmin, on sentait le café. Et c'est vraiment comme ça que m'est venu ce poème, en étant en présence directement.
Oui, là on sent, on entend la présence du corps, la présence des sens. C'est aussi, oui, donc, comme vous le disiez, quelque chose qui vous porte personnellement. Est-ce que vous pourriez nous raconter rapidement, s'il vous plaît, c'est possible, la relation que vous entretenez avec les libraires et le monde de la librairie ?
Alors, les relations, déjà, à l'Épluche Libre, j'étais très heureuse de découvrir cette nouvelle librairie.
C'est gentil.
Parce que pour moi, c'est une relation de confiance et de partage avec les libraires. C'est-à-dire que pour moi, les libraires sont indispensables pour faire vivre le livre et le partager auprès du lectorat, mais aussi de faire un lien avec les auteurs. Et c'est vrai que moi, j'essaie du coup, et j'encourage vraiment les gens à commander tous leurs livres chez les libraires, parce que le livre a le même prix partout.
Oui, il faut
et
le
en
rappeler.
Plus, c'est vraiment, ce sont des belles relations hein, après qui se créent, notamment avec moi, les Pluches Livres, avec Anne et Daïdré. Vraiment, je suis très heureuse parce que le libraire, après, nous permet de nous conseiller des livres qu'on pourrait aimer. Voilà, c'est vraiment une relation humaine qui, pour moi, est indispensable dans mon quotidien.
Justement, à ce propos, est-ce qu'il y a un livre que vous conseilleriez aux auditeurs et aux auditrices ?
Il y a un roman que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle « Le feu du milieu » de Toufat Moutar, qui est paru au Bruit du Monde et qui a été édité par Marie Demeure, qui est une éditrice que j'apprécie beaucoup pour son travail aussi. Et c'est un très très beau roman où on suit l'histoire de deux femmes, ça se passe aux Comores. C'est l'histoire de Gaillard, une jeune esclave qui va rencontrer une femme qui s'appelle Halima, qui est vouée à un mariage forcé. Et c'est à travers comment ces deux femmes, avec des destinées complètement différentes, vont se retrouver dans le monde du conte, du merveilleux. C'est un peu... C'est une ambiance digne pour moi des Mille et Une Nuits, version avec deux femmes et une histoire d'amitié. Et j'en dis pas plus parce que je vous invite vraiment à le découvrir.
Mais c'est merveilleux. Merci beaucoup, Nour, pour cet échange. Vous êtes en Allemagne pour longtemps encore ?
Oui, je suis encore pour une semaine.
Vous revenez nous voir après, vous revenez à Montpellier.
Oui, je reviens vous voir. Bon. Oui, je reviens. C'est pas
vrai. Bon, heureusement.
Merci
vraiment.
Beaucoup, Daïdré.
Merci beaucoup. Merci pour offrir de la beauté au monde. Et merci, chers auditeurs, chères auditrices. À très bientôt pour une autre rencontre libresque.
Les plus livres.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Oui, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle, et on mange des cornichons, de la moutarde.